La politique, c'est le langage.
C'est très personnalisé comme communication.
J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire écrire pour un élu.
Comprendre la pensée, c'est ça le sujet.
La place du conseiller presse, à la fois, c'est le pompier et c'est aussi celui qui va mettre en lumière ce qui est fait.
C'est pas facile hein, d'exprimer sa pensée, même quand on est un homme politique.
Là, c'est vraiment la communication d'un homme ou d'une femme.
Trop payé par nos impôts, trop puissant sans avoir été élu, symbole du népotisme ou de la technocratie, les collaborateurs politiques alimentent tous les fantasmes d'une opinion qui ne connaît au fond pas vraiment le rôle de celles et ceux qui assistent nos élus. Pendant 3 ans, j'en ai rencontré des dizaines. Et certains ont accepté de me raconter la réalité de leur vie, la vie de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre des politiques. Je suis Mao Chaudouet-Delmas. Vous écoutez Les Ombres, un podcast de Slate.fr.
Ce qui est marrant avec les discours, c'est qu'en fait, tu les prépares et tu peux jamais trop savoir exactement comment les choses vont se passer. C'est-à-dire que parfois, tu fais un truc ultra ficelé, hyper solennel, hyper austère, et en fait, t'arrives et tous les mecs qui passent avant ton élu sont la main dans la poche, hyper détente. Et là, t'as un petit moment de panique où tu te dis, oulala, s'il arrive à dérouler son truc comme un bon élève sérieux au pupitre, à dérouler toutes les actions de la ville et le plan biodiversité 2018-2024, enfin, c'est pas possible, quoi. Mais en fait, ils savent improviser, mais tu peux pas toujours tout prévoir, quoi.
Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes.
Discours de Dominique de Villepin à l'ONU, le 14 février 2003. En politique, tout est une affaire de récit. La rhétorique est à l'origine de la politique, et inversement. On se souvient des discours qui accompagnent et marquent les grands moments de l'histoire, on se souvient de ceux qui les prononcent, mais qui sont ceux qui les écrivent ? Un des rôles les plus connus du collaborateur politique, c'est bien la communication. Comme une antenne, le collab sert à émettre, à rayonner et à capter. À relayer la parole de son élu et à lui donner de l'écho. À trouver le sens de la formule et des mots pour marquer le cours des événements. Étienne a 35 ans. Il fait des allers-retours entre l'enseignement et la politique depuis 15 ans. Il a été collaborateur auprès d'un président de région, d'un ministre et aujourd'hui auprès d'un maire. Il a toujours, dans toutes ses expériences politiques, écrit des discours.
Si je relisais les discours que j'écrivais au début, je pense que je rougirais de honte tellement c'était maladroit, parfois grandiloquent, alors en essayant de faire des discours pour un conseiller régional sur un sujet mineur, local, essayer de faire des discours dignes de Barack Obama. Je pense que j'ai été ridicule dans ce que j'ai pu proposer à des élus. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire. Quand on écrit pour quelqu'un d'autre, essayer de se mettre à sa place, je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Essayer de se mettre à sa place au sens où on se dit « Tiens, si j'étais à sa place, moi, qu'est-ce que j'écrirais ?» Et moi, c'est ce que j'essayais de faire. Je me disais « Tiens, je me mets à la place de l'élu, donc j'essaye de me dire si c'était moi l'élu. » Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut essayer toujours de partir de la personne. Qui elle est ? Qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle est capable de dire ? Qu'est-ce qu'elle est capable de porter ? Parce que en fonction de ça, alors, si on connaît l'élu, si on sait que on a quelqu'un qui est un bon orateur ou pas, quelqu'un qui va lire mot à mot le discours, ou quelqu'un qui va s'en détacher, quelqu'un qui va être capable de parler à une salle en la tenant, ou au contraire quelqu'un qui va plutôt être toujours mesuré, qui n'aime pas le pathos, qui est plutôt technicien, etc. Donc il faut toujours partir de la personne. Et c'est quand on s'efface en tant que plume qu'à ce moment-là on peut commencer à écrire un discours. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Et donc, c'est quand j'ai compris qu'il fallait faire exactement l'inverse, que je pense que j'ai réussi à faire des discours qui, non pas, étaient pas meilleurs, étaient pas bons, pas forcément, c'est pas tellement ça, c'est surtout des discours qui correspondaient à la personne qui allait le porter, qui allait le dire. Je dirais que c'est vraiment une des joies les plus intenses qu'on puisse ressentir dans ce métier quand on a écrit un discours dont on est satisfait et que l'élu le porte bien. Ça m'est arrivé quelquefois. Et là, vraiment, ça fait partie des joies du boulot parce que il a bien dit le discours, il était emporté, il a levé la salle, il est très applaudi, il a porté un vrai discours au sens où les arguments de fond ont fait mouche. On a gagné une bataille politique grâce à ça, on a emporté la décision, etc., de l'Assemblée. Et ça, c'est vraiment très réjouissant. On se dit qu'on a été utile.
Je suis resté 2 ans et demi. Je crois qu'il y a un seul courrier auquel j'ai pas répondu.
À 30 ans, Christophe est en poste dans la finance solidaire. Avant, il a travaillé dans l'entourage d'un président de région. Il avait notamment la charge très sensible de répondre aux courriers adressés à son patron.
Le circuit du courrier, c'était donc le courrier arrivé. Il était visé par le président, qui désignait une personne pour s'en occuper. Donc en mettant les initiales de la personne et en mettant une annotation. Et ensuite, le courrier nous arrivait. Et donc il fallait qu'on fasse une réponse qui correspondait à l'annotation et qu'on lui propose et qu'il le signe. Et voilà. On répondait tout seul avec une indication qui était parfois vague. Je me souviens d'une fois, un mec qui avait sollicité le président pour le soutenir pour une candidature ou un truc. Il avait écrit « Non, il est nul ». Et mon collègue est reparti avec ce courrier. Mon collègue qui avait été désigné, nous, on était contents, du coup. Que ce soit pas tombé sur nous, quoi. Et voilà, il devait se démerder avec ça, de répondre à ce gars qui allait être un peu déçu de la réponse, quoi. Et en même temps, enfin, au bout d'un moment, on se met à comprendre son mode de fonctionnement et ça... Je me souviens d'une fois, on était intervenu devant des élèves. Enfin, il était... Je sais pas pourquoi je dis « on ».
C'est particulier, ça.
Ouais.
On dit tout le temps « on ».
Ben oui, mais parce que c'est vrai qu'on était ensemble. On était le chauffeur, lui et moi. Enfin, je pense qu'on est une sorte de prolongement, en fait. Donc, on s'associe, quoi. Et je me souviens d'une fois, oui, il intervenait devant des étudiants. Je sais plus pourquoi, on a parlé du numérique. Et du coup, j'ai mis une référence au compte Twitter de Lady Gaga dans son discours. Il avait 73 ans quand il l'a dit. Ce qui n'arrivait pas toujours. Enfin, il lisait pas toujours. Mais voilà, c'était marrant.
La place de l'écrit est cruciale en communication politique pour déterminer la façon dont l'élu s'adresse à ses électeurs. Mais ça ne s'arrête pas aux grands discours et aux courriers officiels. Ultra exposés médiatiquement, les personnalités politiques s'entourent de conseillers en communication et de responsables presse. Ceux-ci ne font pas exactement le même travail que leurs homologues dans le secteur privé. Ils parlent sans cesse aux journalistes, parfois même directement à la place de leur élu, même sur des sujets ultra sensibles où toute phrase sortie de son contexte peut coûter cher.
Mon métier, c'est d'expliquer ce qu'on fait de manière simple. Et de faire en sorte que le feu n'arrive pas jusqu'à la maison.
François a 30 ans. Il a été responsable presse d'une collectivité, puis du Parti Socialiste.
C'est très particulier. C'est très particulier parce que c'est stressant. Surtout quand un jour, un journaliste dans un coin de mur vous pose une question et vous répondez mais du tac au tac. En fait, à un moment, vous avez oublié. Et puis le lendemain, vous voyez, un membre de l'entourage dit que... Et ce qui est drôle, c'est quand vous lisez, vous avez l'impression que c'est vous. Voilà, vous avez l'impression que tout le monde sait que c'est vous, alors que personne ne sait que c'est vous. Je sais plus, une fois, j'avais fait une blague à un journaliste, je sais plus sur quoi, et le lendemain, je le vois... c'était dans le Figaro, c'était un journaliste du Figaro. Et le lendemain, je vois mot pour mot ce que j'ai dit, mais mot pour mot. Et en plus, c'était assez mignon, il avait mis une membre de l'entourage. C'était assez mignon, il m'avait changé de sexe, mais c'était vraiment pour moi. En plus, c'était une blague qui était nulle, mais sauf que, effectivement, elle était drôle à ce moment-là, mais elle était nulle. Et voilà. Et je parle trop. Et je me retrouve le lendemain matin dans le Figaro avec ma blague nulle. Je pense que c'est mon petit côté François Hollande, j'adore discuter avec les journalistes. Moi, je me prédestinais à devenir chercheur en sciences économie, notamment, voilà, je voulais être prof d'économie politique à la base, c'était ma passion, l'économie de l'innovation, tout ça. Et j'ai rencontré une personne qui m'a en fait un jour proposé un retour de stage un petit peu compliqué, de devenir attaché de presse auprès d'Alain Claisse à Poitiers. Je n'avais jamais fait de relation de presse auparavant. Hein. Et ces trois personnes, qui étaient Alain Claisse, Mathias Sagoun et Eleonore Casal, m'ont dit « Banco, on va travailler avec toi ». Donc j'ai commencé à la ville de Poitiers avec eux. Et ensuite, par le biais d'une rencontre fortuite du congrès de Poitiers en 2015, j'ai eu la possibilité d'entrer au Parti Socialiste. Donc je suis arrivé en tant qu'attaché de presse, Malheureusement, entre guillemets, je suis devenu responsable du service de presse suite au plan social de 2018. Malheureusement, entre guillemets, parce que je pense que j'aurais préféré rester attaché de presse et garder tous mes petits collègues. Mais voilà, la vie a fait que. Et pareil, aussi une rencontre, Hélène Fontano, qui travaillait à l'époque pour Michel Sapin, qui était une femme très gentille et humainement adorable, ce qui est assez rare dans ce métier. Et donc voilà, qui m'a un peu appris tout ce que je sais aujourd'hui et tout ce que je fais aujourd'hui. Si j'avais pas fait d'erreur, je pense que j'aurais jamais fait de relation presse. Je pense qu'on ne fait que des erreurs ou pas, mais oui, je pense que j'ai sans doute déjà fait des erreurs. Et peut-être que sur des questions de journalistes, on appelle trois fois le cabinet pour être sûr d'avoir limite au mot près ce qu'il faut qu'on réponde. Parce que voilà, on est tellement pas à l'aise, voilà, est-ce qu'on est sur une ligne de crête et on sait que le sujet est très touchy. Et ça m'est déjà arrivé, le journaliste nous relance et on répond et on se dit « Ah non, j'aurais dû me taire ». Mais oui, évidemment qu'on a déjà fait des erreurs. Et je pense que ça fait partie du métier de faire des erreurs et ça donne de la spontanéité. Parce que si on fait que des éléments de langage, on ne serait pas très utile. J'ai toujours vu mon métier de deux manières différentes. Oui, je devais formuler des recommandations, des notes, les aider sur les déplacements, etc. Mais on avait aussi un rôle de baromètre. C'est-à-dire, en fait, voilà, on était des sortes de baromètres pour eux. Je dirais pas un baromètre médiatique, parce qu'on ne faisait pas un espèce de sondage toute la journée, non. Mais je sais que c'était mon ancien boss qui me disait ça, qui me disait « Vous faites ce que vous voulez avec la presse, vous allez boire des coups toute la journée avec elle. Si vous voulez, je vous fais des notes de frais, mais je veux savoir quel est l'état de la presse tous les jours. Je veux savoir quels sont les sujets qui les touchent, sur quoi ils écrivent, sur ce qu'on a mis en place. En fait, voilà, faites un SAV, appelez-les, discutez avec eux, critiquez-nous si vous le souhaitez, mais voilà, je veux savoir. » Et pareil sur les gens. Je pense qu'en tant que conseiller communication, en tout cas, moi, j'ai toujours vu mon rôle, c'est ça, comme un conseil. Pas uniquement pour dire il faudrait faire comme ça pour obtenir un résultat, mais aussi leur dire, en fait, avoir un peu cette vision. Ce que me disait une personne avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, il me disait, moi, je me voyais toujours avec l'opinion du voisin de palier, en fait. Voilà. Moi, je donnais parfois l'opinion du voisin de palier. C'est-à-dire que je lui expliquais, bah, vous voyez ce que vous avez mis en place hier, bah, voilà ce qu'en pense votre voisin de palier. Je donne toujours une anecdote qui m'a beaucoup marqué politiquement. C'est un déplacement qu'avait fait donc mon ancien boss, Alain Claes, donc épitaire de Poitiers. C'est dans une cantine scolaire, donc on avait mis en place circuit court, bio, bien-être animal. Donc, c'était banco, les cases étaient toutes cochées les unes derrière les autres. Hein. Donc la presse était venue en nombre, tout le monde avait dit, les articles avaient été très bons. Alain Claes avait cette petite spécificité, il aimait bien rester pour discuter après avec les gens. Et donc il a été discuté avec une maman et... Et c'est intéressant parce que, à la fois, c'est hyper touchant ce qu'elle a dit à Alain Claes et c'est hyper déstabilisant aussi pour nous parce qu'on avait entre guillemets coché toutes les cases médiatiques, toute la presse avait trouvé ça génial, Poitiers met ça en place, génial. Et cette maman avait dit à Alain Claes, elle a dit ah, mais moi je suis très content qu'on caresse les vaches, qu'elles mangent bien. Mais moi en fait, ce qui m'importe plus, c'est que mes enfants mangent. Donc elle a dit en fait, ce que vous mettez en place, c'est très très bien, je suis très contente. Moi en fait, j'ai pas assez d'argent pour donner à manger correctement à mes enfants. Et c'est vrai que ça peut faire un peu opinion de comptoir, hein. Voilà, le mec, la personne lambda dans la rue qui va en fait critiquer tout et n'importe quoi. Mais au fond, ça nous ramène aussi à beaucoup de choses. C'est que dans notre métier, on peut parfois être dans une bulle parce qu'on travaille, travaille en chambre. Voilà, on a tendance à être beaucoup dans nos bureaux, avec nos notes, avec nos journalistes, avec notre réseau, avec notre machin. Et à un moment, je pense que voilà, on perd pied. Donc je pense que notre rôle aussi, c'est... mais ça, c'est, je pense, de tout collaborateur, mais notamment du collaborateur communication et presse, c'est d'aller, en fait, savoir, de garder un lien avec le sol.
La politique, c'est le langage. Pour moi, tout part des mots. Et la politique, c'est dire des mots et ensuite les exécuter.
Jonathan a derrière lui 15 ans de vie politique et de militantisme. Ancien conseiller ministériel, ancien salarié d'un parti et d'un conseil régional, il dirige désormais le cabinet d'un adjoint parisien.
Et donc pour moi, la question du langage et même de la com, elle ne se réduit pas à des outils ou à des techniques de communication. Elle est vraiment au cœur de l'exercice du politique parce que la politique, c'est décider ensemble de ce qu'on veut faire, d'un projet de société, et ça passe forcément par le dialogue, par l'échange, par un processus délibératif. Donc la communication, c'est pas pour moi quelque chose qui est à côté de la politique, de la décision, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du travail. C'est pour ça que moi, je pense que tout collaborateur d'élu doit faire de la com dans le sens où tout collaborateur d'élu doit se poser la question du récit de l'action publique. Après, effectivement, il y a quand même certains exercices qui nécessitent des techniques, de l'entraînement, notamment ce dont tout le monde a entendu parler, les éléments de langage, qui reviennent finalement à se poser la question. C'est assez noble, souvent, c'est intéressant, les éléments de langage, tout le monde en parle avec beaucoup de mépris. Au fond, c'est un exercice qui est tout à fait noble de se dire comment on fait en sorte de faire comprendre au grand public son orientation politique ou son action. C'est quelque chose d'absolument nécessaire aujourd'hui. Donc les éléments de langage, quand c'est de la langue de bois, ça énerve. Mais les éléments de langage, c'est nécessaire pour faire comprendre une action ou une orientation. Pour moi, ce qui est au cœur de la com en politique, c'est le langage. On voit le poids des discours quand on voit l'attrait d'un Jean-Luc Mélenchon. Il repose essentiellement sur sa capacité oratoire, ses qualités de tribun. Et c'est pas parce qu'ils ont inventé le meilleur site internet ou les hologrammes ou quoi. C'est avant tout parce qu'il a un rapport au langage qui est extraordinaire en réalité, quoi qu'on pense de ses idées.
La politique est aujourd'hui marquée par une communication omniprésente. Que ce soit par la multiplication des canaux, pour tantôt rendre compte de son action, tantôt discréditer le camp adverse, ou par l'immédiateté des réseaux. Cette surimportance de la communication politique a des effets négatifs chez les élus, qui passent parfois plus de temps à vouloir contrôler leur image qu'à conduire leur mandat. Pendant 4 ans, Lorraine a été conseillère en communication auprès d'un adjoint au maire d'une grande ville française. Elle nous raconte les bouleversements de son métier.
La presse, c'est beaucoup de rédaction, beaucoup d'attention à ce que vous rédigez, parce qu'on est dans un débat public hyper hystérisé, et la moindre phrase qui peut porter à hésitation, à nuance, ou en tout cas qui peut choquer dans le débat public pour x ou x raisons, il faut y faire très attention. Effectivement, c'est le moment où vous parlez un peu à la place de votre élu, notamment quand vous envoyez des éléments de langage par écrit, où il faut faire évidemment très attention, donc c'est vrai qu'il y a un peu cette tension, et du coup ça crée une espèce d'homogénéisation et de baisse en qualité du débat public, parce que à force que tout le monde fasse très attention, ou en tout cas ou envoie des scuds volontairement, on a en fait un débat public qui est hyper polarisé, qui est pas très intéressant, et malheureusement c'est aussi un phénomène de protection de la part des collaborateurs. Quand vous devez réagir vite, il vaut mieux dire un truc creux, plutôt de se lancer dans un truc compliqué dont vous n'aurez pas forcément la validation au préalable, etc., et dans la vitesse. Et donc, ça favorise ce type de réaction en chaîne tout le temps, où les élus sont tout le temps indignés de tout. On va dire que le rapport à la liberté de la presse des politiques, pareil, est assez questionnable. C'est toujours très compliqué de leur expliquer que voilà, la presse, c'est pas la Pravda et qu'on peut critiquer. Après, il y a aussi des vrais journalistes qui font de la mauvaise foi, qui traitent des sujets peu intéressants. Pour moi, ceux qui étaient mes ennemis, c'est pas forcément ceux qui faisaient des articles négatifs sur nous, mais c'est ceux qui étaient en permanence à la recherche de off, de petites phrases, qui finalement participent d'un climat assez dégradé. Donc moi, par exemple, à titre personnel, je serais pour la suppression du off. Alors le off, c'est quand vous lisez dans les journaux un proche de machin, dans l'entourage de trucs. En gros, c'est quelqu'un qui s'exprime, mais on ne vous dit pas qui c'est, donc vous ne pouvez pas juger de la valeur de sa parole. Qui plus est, en off, on peut raconter pas mal n'importe quoi. Le off en politique, c'est utilisé soit de manière négative pour critiquer son camp à l'externe parce qu'on n'est pas d'accord, dire des méchancetés sur quelqu'un. Ça peut être aussi utilisé dans une forme plus positive, j'aime pas vraiment dire positive, mais un peu de prophétie autoréalisatrice qui consiste à aller envoyer des gens dans les médias en off, dire que cette candidature est géniale et que tout le monde l'appelle de ses voeux. Mais en tout cas, ça crée un rapport biaisé à la vérité. Parce que, par exemple, le off, qui n'est pratiquement pas dans tous les pays, c'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, si vous êtes en off, c'est parce que vous risquez un danger en délivrant l'information que vous délivrez. Et donc, ça laisse beaucoup le champ à toutes les petites mesquineries humaines, justement, entre collaborateurs, entre élus. Ça dévalorise pour moi la parole publique. Et ça fait, maintenant, on a des articles entiers dans le Figaro, dans le Point, 5-6 pages avec que du off. Et du coup, le travail d'enquête est invérifiable. C'est très compliqué, je pense.
Après, le off a aussi une autre fonction. C'est la popole, en fait. Voilà, c'est des petits potins. Voilà, c'est le petit off de... Vous avez un politique qui est assez en vue Et en fait, vous travaillez pour un petit entre guillemets, hein, voilà, pour un petit élu local, et lui dire, bah voilà, le petit élu local, bah il a vu machin à un déjeuner. D'ailleurs, en plus, à ce déjeuner, voilà, c'est un peu faire des coulisses, alimenter les papiers. Je pense qu'à la base, le off, c'était plus pour alimenter les papiers de fond, expliquer. C'est un peu faire du SAV. Et effectivement, aujourd'hui, ça peut avoir une autre fonction que même aujourd'hui les politiques eux-mêmes font. Hein. Nombre de déjeuners de presse que font les personnalités politiques, nombre d'entre eux disent « ça, c'est en off ». Et du coup, là, là c'est le moment où ils libèrent un petit peu plus leur parole.
Vous venez d'écouter « Les Ombres », un podcast de Mao Chaudouet-Delmas, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Thomas Loupias. Illustration, Ruben Cohen. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.